Chapitre 8. Ce qui se passa entre Jones et le père de Nightingale. Arrivée d'une personne dont il n'a pas encore été parlé dans le cours de cette histoire. Malgré le sentiment du satirique romain, qui nie la divinité de la fortune, et malgré l'opinion de Sénèque sur le même sujet, Cicéron, qui était, à mon avis, plus sage que tous les deux, soutient expressément le contraire. Et il est certain qu'il arrive dans le monde des événements si étranges et si inconcevables qu'il semble que toute l'habileté et toute la prévoyance humaine n'ont pas suffi pour les produire. Ce qui arriva à Jones est assurément dans ce dernier cas. Il trouva M. Nightingale père dans un moment si critique que la fortune, si elle méritait réellement le culte qu'on lui rendait à Rome, n'aurait pu en imaginer un semblable. En un mot, le vieux gentilhomme et le père de la jeune personne qu'il destinait à son fils s'étaient disputés vivement pendant plusieurs heures au sujet de ce mariage. Le dernier venait de sortir et avait laissé l'autre charmé de l'idée d'avoir remporté la victoire dans la longue discussion qui avait eu lieu entre eux, discussion dans laquelle, après s'être efforcés de l'emporter l'un sur l'autre, ils s'étaient retirés du combat, comme il arrive presque toujours, avec la parfaite conviction d'avoir été tous deux vainqueurs. Ce gentilhomme que M. Jones visitait en ce moment était ce qu'on appelle un homme du monde, c'est-à-dire un homme qui dirige sa conduite en ce monde comme quelqu'un qui, pleinement convaincu qu'il n'y en a pas d'autre, est déterminé à tirer le meilleur parti possible de celui-ci. Il avait fait le commerce dans lequel il avait été élevé dès sa plus tendre jeunesse. Mais ayant acquis une très grande fortune, il venait de quitter les affaires, ou pour parler plus exactement, il avait abandonné son commerce de marchandises et ne faisait plus que le commerce d'argent, dont il avait toujours un fonds considérable à sa disposition, et dont il savait très bien tirer le parti le plus avantageux, en profitant des besoins des particuliers, et souvent même de ceux du gouvernement. Il était enfin si exclusivement en rapport avec l'argent que l'on peut raisonnablement douter qu'il imaginât l'existence réelle de quelque autre chose dans le monde. Ce que l'on peut au moins avancer avec certitude, c'est qu'il ne croyait à la valeur réelle d'aucune autre chose. Le lecteur conviendra, je crois, que la fortune n'aurait pu trier parmi les hommes une personne moins propre à être attaquée par M. Jones avec quelque probabilité de succès, et que cette bizarre divinité ne pouvait avoir dirigé cette attaque dans un moment plus défavorable. Or, comme l'argent était toujours ce qui dominait le plus dans les pensées de cet homme, aussitôt qu'il voyait entrer un étranger chez lui, son imagination lui suggérait l'idée que cet étranger venait ou lui apporter de l'argent ou lui en emprunter. Et suivant que l'une ou l'autre de ses pensées prévalait dans son esprit, il concevait une opinion favorable ou défavorable de la personne qu'il approchait. Malheureusement pour Jones, la dernière prit l'ascendant à son arrivée. Un jeune homme étant venu la veille chez lui avec un billet de son fils pour une dette de jeu, il craignit, au premier aspect de Jones, qu'il ne vînt pour un pareil message. Jones ne lui eut donc pas plutôt dit qu'il venait au sujet de son fils, que le vieux gentilhomme, confirmé dans ses soupçons, s'écria vivement qu'il perdrait sa peine. « Serait-il possible, monsieur, répondit Jones, que vous eussiez deviné le motif qui m'amène ?»« Si je l'ai deviné, répliqua le père, je vous le répète encore, vous perdrez votre peine. Je suppose que vous êtes un de ces libertins qui entraînaient mon fils dans les maisons de jeu et de débauche, où il se perdra. Mais je ne paierai plus de ses billets, je vous le proteste, et j'espère qu'il renoncera désormais à toutes ces mauvaises compagnies. Si j'avais pu imaginer le contraire, je ne lui aurais pas procuré une femme, car je ne voudrais être un instrument de ruine pour personne. « Comment, monsieur, dit Jones, c'est vous qui lui aviez destiné cette jeune personne ?»« Je vous prie, monsieur, répondit le père, en quoi cela peut-il vous intéresser le moins du monde ?»« Mon cher monsieur, reprit Jones, ne vous offensez pas si je m'intéresse à ce qui regarde le bonheur de votre fils, que j'honore et estime également. » C'était justement pour ce sujet que j'étais venu vous trouver. Je ne puis vous exprimer la satisfaction que m'a causé ce que vous venez de me dire, car je vous assure que votre fils est la personne que j'honore le plus. Je vous dirai davantage, monsieur, et je vous exprimerai difficilement l'estime que j'ai pour vous, qui êtes assez généreux, assez bon, assez tendre, assez indulgent pour destiner votre fils à une pareille union. C'est une personne, en effet, qui, j'ose en jurer, rendra votre fils l'un des hommes du monde le plus heureux. Je ne connais rien qui nous porte plus naturellement à aimer quelqu'un que d'avoir conçu quelque alarme à son premier aspect. Quand une fois ces craintes commencent à s'évanouir, nous oublions bientôt que c'est lui qui les a causées, et nous nous considérons comme redevables du plaisir dont nous jouissons à la personne qui nous avait fait d'abord éprouver quelque frayeur. C'est ce qui arriva au vieux Nightingale, qui ne vit pas plus tôt que Jones n'avait rien à lui demander, ce qu'il avait craint d'abord, qu'il commença à trouver sa présence agréable. « Je vous en prie, monsieur, lui dit-il, ayez la bonté de vous asseoir. Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu le plaisir de vous voir. Mais si vous êtes un ami de mon fils, et si vous avez quelque chose à me dire concernant la jeune personne en question, je serai charmé de vous entendre. Quant à rendre mon fils heureux, ce sera sa faute si elle n'y parvient pas. J'ai satisfait à mon devoir en m'occupant soigneusement de l'article principal. Elle lui apportera une fortune suffisante pour rendre heureux tout homme raisonnable, sage et modéré. « Sans doute, s'écria Jones, car elle est par elle-même une fortune. Elle est si belle, si aimable, d'un caractère si doux, elle est si bien élevée. Oh, c'est la jeune personne la plus accomplie. Elle chante admirablement bien. Elle a sur le clavecin la main la plus légère. « Je ne savais rien de tout cela, répondit le vieux gentilhomme, car je n'ai jamais vu la jeune personne, mais je ne l'en aime pas moins pour tout ce que vous m'en dites, et j'en aime d'autant plus son père pour n'avoir pas mis toutes ses brillantes qualités en ligne de compte. J'y penserai toujours comme une preuve que c'est un homme de bon sens. Un sot aurait porté en compte ses articles comme une augmentation de fortune. » Mais je dois lui rendre justice, il ne m'en a jamais parlé, quoique assurément cela soit bien loin de déprécier le mérite d'une femme. Je vous assure, monsieur, dit Jones, qu'elle a toutes ses qualités dans le degré le plus éminent. Quant à moi, je craignais, je vous l'avoue, que vous nous montrassiez un peu de répugnance et moins de disposition à ce mariage, car votre fils m'a dit que vous n'aviez jamais vu la jeune personne. C'est dans cette supposition, monsieur, que je suis venu pour vous supplier, pour vous conjurer, si vous mettez quelque prix au bonheur de votre fils, de ne pas vous opposer à son union avec une personne qui non seulement a toutes les bonnes qualités dont je viens de parler, mais en a beaucoup d'autres encore. Si c'est là, monsieur, l'affaire qui vous amène, nous vous sommes obligés, mon fils et moi, et vous pouvez être parfaitement tranquille, car je vous donne ma parole que je suis très satisfait de sa fortune. « Monsieur, répondit Jones, je vous honore à tout moment de plus en plus. Être si aisément satisfait et si modéré sur cet article n'est pas moins une preuve de la solidité de votre jugement que de la noblesse de votre âme. »« Pas si modéré, jeune homme, pas si modéré, répondit le père. »« Encore plus noble, reprit Jones, et permettez-moi d'ajouter encore plus sensé. Car il est sûr qu'il y a presque de la folie à regarder l'argent comme le seul fondement du bonheur. Une femme comme elle, avec le peu qu'elle a, c'est-à-dire à peu près sans fortune, « Je trouve, mon ami, dit le vieux gentilhomme, que vous avez une idée peu juste de l'argent, ou bien vous connaissez plus particulièrement le personnel de la dame que l'état de son bien. Voyons, je vous prie, quelle fortune croyez-vous bien qu'elle est ?»« Quelle fortune ?» répondit Jones. « Il ne faut pas en parler. » Si vous voulez la comparer à celle que votre fils aurait le droit d'attendre. Voyons, voyons, dit le père, peut-être aurait-il pu trouver mieux. C'est ce que je nie, répondit Jones, car c'est une des plus excellentes personnes. Fort bien, continua le père, mais je parle, moi, de l'article de la fortune. Répondez présentement à cette question-ci. Combien imaginez-vous qu'elle doive avoir? Combien, combien, répondit Jones. Mais au plus peut-être 200 livres sterling. Avez-vous le projet de vous moquer de moi, jeune homme? Dit le père, un peu fâché. Non, ma foi, répondit Jones, je parle sérieusement. Je crois même ne pas vous avoir fait grâce du dernier sol. Si je fais tort à la personne, je lui en demande pardon. Sans doute que vous lui faites tort, s'écria le père. Je suis sûr qu'elle a 50 fois cette somme, et la comptera 50 fois avant que je consente qu'elle épouse mon fils. » « Il est trop tard, dit Jones, pour parler aujourd'hui du consentement. Quand elle n'aurait pas 50 sols, votre fils est marié. » « Mon fils marié, répondit le vieux gentilhomme avec surprise. « Je savais bien, dit Jones, que vous n'en étiez pas instruit. « Mon fils marié à Miss Harris, ajouta le père. « À Miss Harris, dit Jones, non, monsieur, à Miss Nancy Miller, la fille de Mrs. Miller, chez laquelle il logeait. Quoique sa mère en soit réduite à louer des logements, « Oh, ça, vous moquez-vous de moi ou parlez-vous sérieusement ?» s'écria le père. « Croyez, monsieur, répondit Jones, que je dédaignerais de jouer le rôle de plaisant. Je suis venu vers vous très sérieusement, m'imaginant bien, ce qui n'est que trop vrai, je le vois, que votre fils n'avait pas osé vous instruire d'un mariage si fort au-dessous de lui quant à la fortune. Quoique la réputation de la jeune personne ne permette pas d'en faire plus longtemps un secret. » Le père, frappé de cette nouvelle, était encore immobile et muet d'étonnement quand un homme entra dans l'appartement et le salua en lui donnant le titre de frère. Mais quoique ces deux personnages fussent unis d'aussi près par le sang, ils étaient presque l'opposé l'un de l'autre par leur caractère. Le frère, qui venait d'entrer, avait aussi été dans le commerce, mais il ne s'était pas plutôt vu possesseur de 6 000 livres qu'il en avait employé la plus grande partie à acheter une petite terre et s'était retiré à la campagne, où il avait épousé la fille d'un ecclésiastique sans bénéfice, jeune personne qui, quoiqu'elle n'eût ni beauté ni fortune, avait été l'objet de son choix uniquement par la gaieté dont elle était en effet abondamment pourvue. Il avait durant 25 ans mené avec cette femme une vie qui ressemblait plus au modèle que certains poètes nous ont donné de l'âge d'or qu'à aucun de ceux que nous fournit le siècle présent. Il en avait eu 4 enfants, qu'il avait tous perdus en bas âge, excepté une fille que, pour parler le langage vulgaire, sa femme et lui avaient gâtée, c'est-à-dire avaient élevée avec une tendresse qui tenait de l'idolâtrie. Au surplus, elle la leur rendait à un tel degré que, n'ayant pu prendre sur elle de les quitter, elle venait de refuser un mariage très avantageux avec un homme de 40 ans environ. La jeune personne que M. Nightingale avait destinée pour son fils était une proche voisine de son frère et une connaissance de sa nièce. Et dans le fait, c'était au sujet de ce mariage projeté qu'il venait d'arriver à Londres, non pour presser son frère de le terminer, mais plutôt pour le dissuader d'un projet qui, à son avis, causerait infailliblement le malheur de son neveu. Car il ne pouvait pas prévoir autre chose d'une union avec Miss Harris, malgré l'immensité de sa fortune. Ni sa personne, ni son caractère ne lui semblaient promettre aucune sorte de félicité conjugale, car elle était très grande, très maigre, très laide, très affectée, très sotte et très méchante. Aussi son frère ne lui eut pas plutôt parlé du mariage de son neveu avec Miss Miller qu'il en témoigna la plus vive satisfaction. Et quand le père eut crié bien fortement contre son fils, prononcé sur lui la sentence de mendicité, l'oncle prit la parole en ces termes. « Si vous étiez un peu plus de sang-froid, mon frère, je vous demanderais si vous aimez votre fils pour lui ou pour vous. Vous me répondriez, je suppose, et je suppose que vous le pensez, que c'est pour lui que vous l'aimez, et que c'est sans doute son bonheur que vous avez eu en vue dans le mariage que vous aviez arrangé pour lui. » Je vous dirai à présent, mon frère, que prescrire aux autres des règles de bonheur m'a toujours paru très absurde, et exiger qu'on les suive très tyrannique. C'est une erreur commune, je le sais, mais ce n'en est pas moins une erreur. Et ce qui est absurde en d'autres cas, l'est surtout en fait de mariage, dont le bonheur dépend entièrement de l'amour qui subsiste entre les parties contractantes. J'ai donc toujours pensé qu'il était déraisonnable aux pères et mères de vouloir choisir pour leurs enfants dans ces occasions, puisque commander l'amour est exiger un effort impossible. Je dis plus, l'amour abhorre à tel point la violence que je ne sais pas si, grâce à la malheureuse mais incurable perversité de notre nature, il ne souffre pas même avec peine qu'en veuille employer avec lui la persuasion. Il est cependant vrai que, quoique à mon avis un père sage n'ait pas le droit d'ordonner, il doit être consulté dans cette occasion. peut-être même strictement devrait-il avoir une voix négative. J'avoue donc que mon neveu, en se mariant sans vous consulter, a commis une faute. Mais soyons de bonne foi, mon frère. N'avez-vous pas un peu provoqué cette faute? Vos fréquentes déclarations à cet égard ne lui ont-elles pas donné une certitude morale de votre refus, dans le cas où il y aurait quelque chose à dire sur l'article de la fortune? N'est-ce pas même en ce moment le seul motif de votre colère? Et s'il a manqué à son devoir, n'avez-vous pas également excédé votre autorité quand vous avez conclu pour lui, à son insu, le marché définitif d'une femme que vous-même n'avez jamais vue, et qu'à moins d'être absolument fou, vous n'auriez jamais songé à admettre dans votre famille si vous l'aviez vue et connue aussi bien que moi? Je conviens encore que mon neveu a commis une faute, mais sûrement ce n'est pas une faute impardonnable. Il a agi à la vérité sans votre consentement dans une affaire où il était de son devoir de vous le demander. Mais aussi, c'est dans une affaire où il s'agit principalement de son intérêt. Vous devez vous-même convenir, et vous conviendrez que vous ne consultiez que son intérêt. Et si malheureusement il a différé de votre opinion, et s'il s'est trompé dans ses notions sur le bonheur, voudrez-vous, mon frère, si vous aimez votre fils, le forcer à s'écarter encore davantage du but? Voulez-vous encore aggraver les fâcheuses conséquences du mauvais choix qu'il a pu faire? Voulez-vous faire un malheur certain pour lui, d'un événement qui n'est pas encore prouvé devoir être malheureux? En un mot, mon frère, parce qu'il a mis hors de votre pouvoir de le rendre aussi riche que vous l'auriez voulu, voulez-vous le rendre aussi misérable que vous le pourrez? Par la force de la foi vraiment catholique, saint Antoine persuada les poissons. Orphée et Amphion allèrent un peu plus loin, et par les charmes de la musique enchantèrent des objets tout à fait inanimés. Ce sont là deux prodiges, mais ni l'histoire ni la fable n'avaient encore osé risquer de citer l'exemple de quelqu'un qui, par la force des arguments de la raison, eût triomphé d'une avarice invétérée. M. Nightingale, au lieu d'essayer de répondre à son frère, se contenta de lui observer qu'ils avaient toujours différé dans leurs sentiments sur l'éducation de leurs enfants. « Je désirerais, mon frère, lui dit-il, que vous vous fussiez borné à soigner l'éducation de votre fille, et ne vous fussiez jamais embarrassé de mon fils, à qui vos préceptes et vos exemples ont été, à mon avis, fort peu profitables. » Il faut dire que le jeune Nightingale était filleul de son oncle et avait plus vécu avec lui qu'avec son père. En sorte que l'oncle avait souvent déclaré qu'il aimait son neveu presque autant que si c'eût été son propre fils. Jones fut ravi d'avoir rencontré cet excellent homme, et quand, après avoir épuisé leurs efforts, ils virent que la colère du père, au lieu de s'apaiser, s'enflammait de plus en plus, il conduisit l'oncle à son neveu chez Mrs. Miller.